Jean-Claude William, bonjour.
Bonjour Victor Molibonheur, bonjour à tous les auditeurs et à tous les internautes.
Oui, vous avez mené une conférence avec des anciens élèves de l'école normale qui fêtaient, je crois, leur 61e anniversaire. Je vous propose qu'on essaie en quelques minutes de rappeler ce qu'était l'école normale avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse, qui est « Quelle école pour demain ?»
Alors, l'école normale était le lieu de formation des enseignants, des instituteurs au départ, des instituteurs. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, symboliquement, c'est que cette école normale a été abritée, c'était le 61e anniversaire précisément, du fait qu'elle était localisée dans ce qu'on appelle le château Aubéry, du nom de l'ancien propriétaire du domaine, Eugène Aubéry, qui était à l'époque un peu l'équivalent, pour faire l'image, l'équivalent de Bernard Ayot. C'est-à-dire, c'était le patron du pays, quoi. C'était le maître du pays.
On va dire le patron économique.
Le patron économique, oui, mais aussi, il avait... vous savez, quand on tient l'économie, on tient aussi très largement, surtout à l'époque, on tient aussi très largement la politique. C'était le maître du pays. Et qui avait été impliqué, je dis impliqué parce qu'on a dit qu'il était responsable, mais ça c'est pas du tout avéré, il était impliqué dans l'assassinat d'André Aliker. Alors je trouve que c'est une sorte de clin d'œil de l'histoire. Les élèves de l'école normale, dont beaucoup d'entre eux étaient issus de milieux populaires, appartenaient par conséquent, étaient issus de la classe ouvrière, se sont retrouvés légalement dans la propriété qui avait jadis appartenu au grand patron économique du pays. Et donc, il y a toute une série, plusieurs promotions d'élèves sont sortis. Alors certains, la plupart, c'était la vocation, sont devenus instituteurs, et parfois même, finalement, pour les plus brillants d'entre eux, ils sont devenus inspecteurs d'académie, ils ont des situations de cette nature. Et puis certains sont passés par l'école normale, puis ne se sont pas arrêtés là. On fait d'autres études. Et c'est ainsi qu'il y a quelques-uns, en particulier, qui ont fait assez curieusement médecine. Certains des médecins que nous connaissons encore, qui pour la plupart sont maintenant à la retraite, enfin qui pour certains vivent toujours, eh bien sont d'abord passés par l'école normale avant de bifurquer pour faire autre chose. Donc voilà, l'école normale, c'était cela. C'était former des instituts martiniquais, antillais, issus pour beaucoup, je le répète, du peuple, mais qui évidemment recevait un enseignement qui était un enseignement assez traditionnel, qui était un enseignement que j'appelle assimilationniste, hein, qui était le reflet de ce qu'on faisait en France, et eux-mêmes, à vrai dire, n'avaient pas non plus vraiment de recul, et volontiers faisaient ingurgiter à leurs élèves.
Souvent les avaient fait eux-mêmes.
Eux-mêmes ingurgiter, ils n'avaient pas du tout de recul. Je crois que c'est un reproche qu'on peut faire encore aujourd'hui, et je le dis en sachant ce que je dis. Je crois qu'on peut, reprocher à nos enseignants un certain laxisme. Le mot qui vient à l'esprit, c'est pas ça, c'est paresse. Et donc je le dis, une paresse intellectuelle. Une paresse intellectuelle parce que rapidement, ils deviennent des élites. Surtout dans le temps, maintenant, l'élite, c'est pas grand-chose. Socialement, encore qu'il a une vie relativement aisée. Mais à l'époque, un instituteur, c'était quelqu'un. Alors il y a de grandes figures d'un instituteur, très respectable, qui faisait vraiment le métier, avec une sévérité, une rigidité, mais ce n'était pas le cas général. Le cas général, c'est qu'on se laissait un peu aller. On servait d'une sorte de magnétophone, quoi, hein, un magnétophone parlant, si je puis dire, et on transmettait comme ça, sans distance. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce qu'aujourd'hui encore, on le dit, mais je ne peux pas parce que le gouvernement ne veut pas, le gouvernement ne donne pas les moyens, il n'y a pas de programme. C'est du pipeau.
Et à votre avis, Jean-Claude William, oui, quelle école il faut pour aujourd'hui? C'est vrai que nous avons de grands rendez-vous avec l'histoire, avec l'économie, avec la culture. Césaire est passé par là. L'identité, le tambour, l'émergence d'un certain nombre d'activités, les technologies nouvelles. Alors, quelle école avec tous ces bouleversements?
Je crois que la question est tout à fait pertinente. Moi, je crois que l'école doit s'adapter au temps. L'école n'est pas le reflet du passé. L'école doit être le reflet du présent et anticiper sur l'avenir. Alors, évidemment, je crois que l'école à laquelle on doit aspirer est une école qui doit tenir compte de l'état de la technologie. Ce qui veut dire en clair qu'un certain nombre de tâches qui aujourd'hui sont assurés par les maîtres, vont disparaître ou vont être allégés. Parce que tout ce qui est le domaine de la répétition, ben les moyens technologiques permettent aujourd'hui d'y pourvoir. Et en plus, nous avons affaire à des générations d'enfants, puis de jeunes gens, qui sont évidemment naturellement, si je puis dire, attirés par les nouvelles technologies. Donc, d'une certaine manière, dans le siècle passé, le travail du maître est allégé, et par conséquent, le temps qu'il gagne ainsi, il peut l'investir dans d'autres tâches. Alors, l'une des autres tâches, qu'on a déjà commencé, c'est vrai, mais on peut aller bien plus loin, c'est l'affirmation identitaire. L'affirmation identitaire, qui passe évidemment par l'appropriation véritable du créole, par exemple, de tous les ensembles, de tous les éléments de la culture martiniquaise, la musique, la danse, etc. Mais en veillant à une chose, à laquelle certains des militants culturels ne songent pas assez. Il est essentiel que nous affirmions notre identité. C'est vital. Mais il est essentiel aussi qu'on ne se contente pas d'affirmer notre identité. Je veux dire qu'il y a le piège. L'identité peut constituer un piège et même par conséquent un handicap. Surtout dans une société mondialisée. Le risque de repli, de recroquevillement sur soi. Il faut absolument se battre contre cela. Il faut l'empêcher à tout prix. Et par conséquent, dans le temps même, en même temps qu'on affirme notre identité, qu'on met nos pieds dans la boue, enfin l'image n'est pas très heureuse, terre.
Oui, nos griffes en terre.
Nos griffes en terre, c'est le mot que je cherchais, merci beaucoup. On met nos griffes en terre, eh bien dans ce temps-là aussi, il faut que nous nous ouvrions à l'extérieur. L'extérieur, c'est la Caraïbe, bien sûr. Mais ce n'est pas que la Caraïbe, c'est aussi l'Europe, c'est aussi le monde entier. Et je crois que cette école-là doit répondre à ces défis, le défi par conséquent de l'ancrage identitaire et de l'ouverture au monde. Césaire parlait de la porosité au monde, il faut qu'on soit ouvert au monde. Et par conséquent, il faut une école qui fasse deux choses, qui permette l'émergence de deux catégories d'individus. Pour aller vite, l'école, au sens large du terme, doit produire une élite. Il faut que dans une société, il y ait des élites. Une élite intellectuelle, scientifique, tout ce que vous voulez, des gens capables de passer les plus grands concours, le plus haut niveau, et sans aucune discussion possible. Et ça, c'est parfaitement possible. Mais en même temps, tout le monde ne peut pas relever de l'élite, ce qu'on appelle l'élite. Mais il faut précisément se préoccuper aussi des autres. Et de manière intelligente, en tenant compte, je le répète, de l'état de la société à un moment donné. Former des gens qui puissent occuper les emplois qui vont se dégager grâce au progrès de la technologie. Il faut par conséquent une vraie formation professionnelle, ce qui n'est pas le cas en ce moment, c'est du bricolage. Quoi. Il faut une vraie formation professionnelle, ce qui suppose que nous ayons des politiques, des hommes politiques, des femmes politiques, qui fassent leur job. Ce qui n'est pas le cas non plus. Je veux dire par là qu'il faut qu'ils dégagent des perspectives pour demain. Il faut qu'ils disent ce qu'ils veulent faire, ce que le peuple adhère, ce à quoi le peuple adhère, pour que précisément les formations se mettent en place, qu'il y ait une adéquation, une articulation entre le projet politique et la formation des jeunes gens et des jeunes filles. Voilà.
Eh bien écoutez, Jean-Claude William, vous voyez que là encore, il y aurait des quantités de choses à dire. On reprend notre formule, le temps qui nous était parti étant arrivé, on se retrouve, en tout cas on vous retrouve la semaine prochaine, vous nous direz si ce sera dans un billet ou si ce sera un peu dans une émission comme celle-ci, où vous allez nous donner des clés pour comprendre aujourd'hui et demain. Merci Jean-Claude William,
merci
vous avez le dernier mot.
Merci beaucoup.